Et salut à tous et bienvenue dans Parlons Ciné, l'émission où on évoque l'actualité et les sorties ciné de la semaine sur Radio Campus. À notre programme ce soir, les actus ciné avec un point sur le box-office où d'une deuxième partie a dépassé les 3 millions d'entrées au bout d'un mois d'exploitation, tandis que Denis Villeneuve a dit qu'il ne ferait d'une 3 que s'il peut faire mieux que le 2, il se fait mousser, le pépère, il se fait mousser, et qu'on a appris, malheureusement, le décès de la voix française légendaire d'Arnold Schwarzenegger, Daniel Beretta. Puis nous parlerons des sorties récentes en salle et en streaming avec un petit rattrapage sur le film d'animation hybride La jeune fille et les paysans, sorti la semaine dernière, mais aussi les sorties de cette semaine avec le thriller écolo La promesse verte avec Alexandra Lamy et Félix Moati, Le jeu de la reine avec Alicia Vikander et Jude Law, et Pas de vague avec François Civil, avant de terminer en bref avec quelques recos parmi les autres sorties de la semaine en salle et sur les plateformes. À la technique, Hugo est évidemment de nouveau avec moi ce soir. Salut Hugo.
Bonsoir Gaël, comment ça va ?
Eh ben ça va bien. Et toi Hugo, comment ça va ?
Ça va super, toujours content d'être là dans Parlons Ciné.
Ah bah ça fait plaisir, dis donc, ça fait super plaisir d'entendre ça, merci Hugo. Et ce soir on a un programme plutôt sympa, ça va. C'est pas des grands films, mais c'est... Enfin si, il y en a quand même, il y en a un, on va en parler, mais il y en a un qui est quand même très très bien. Mais sur les sorties de la semaine précisément, c'est des films sympathiques, mais rien de transcendant, mais ça va, on n'est pas sur la catastrophe non plus, on va pas nous faire un Imaginary ce soir. J'ai hâte de refaire un Imaginary en vrai. J'ai envie de remettre Alain Juppé quelque part dans mes punchlines. Voilà. Je suis sûr que les auditeurs ont adoré. Mais du coup, voilà, Hugo est de nouveau avec moi, bien sûr, pour m'accompagner durant cette petite demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, on verra bien, où nous parlons ciné. Pour commencer cette émission, du coup, un petit point sur le box-office s'impose, le point box-office traditionnel, maintenant, j'ai envie de dire. Avec d'une deuxième partie qui arrive à la fin de sa quatrième semaine d'exploitation et qui a dépassé comme prévu les 3 millions d'entrées, cumulant désormais 3,3 millions d'entrées aux dernières nouvelles, après un quatrième week-end en tête du box-office où il a réuni plus de 357 000 spectateurs dans les salles, la deuxième partie ayant officiellement donc fait mieux que le score final du premier volet qui était à 3,1 millions en 2021 et qui devrait terminer sa course du désert en dépassant les 4 millions d'entrées du coup. Derrière Arrakis, on retrouve toujours le biopic Une vie, plus d'un mois après sa sortie avec 1,3 million d'entrées au compteur, tandis que Euro-Gagnant reste en troisième position du podium avec plus de 239 000 entrées au bout de deux semaines d'exploitation, ce qui est honnête. Franchement, c'est honnête pour la comédie française plutôt osée qu'il est. En dehors du podium où les trois films en tête ont réuni entre 100 000 et 300 000 entrées du coup le week-end dernier, on retrouve les autres sorties de la semaine dernière, notamment le film d'horreur Immaculé, dont on a dit plutôt du bien, qui est en quatrième position avec 96 066 entrées pour sa première semaine. C'est en dessous des 100 000 entrées, mais c'est quand même un beau score pour un film d'horreur qui a eu une com plutôt honnête aussi et qui est de plutôt bonne facture, encore une fois. La comédie Karaoké avec Michel Larocque et Claudia Tagbo que je n'ai pas vu et le drame égo existentiel hors saison avec Guillaume Canet se partagent respectivement les 5e et 6e places avec 81 et 80 000 entrées respectivement. La palme de la tristesse revient cette semaine à la jolie comédie Bis Repetita avec Louise Bourgoin et Xavier Lacaille, acteurs de la série Parlement, qui se retrouve très loin du classement dans le classement du coup en 13e position précisément avec un peu plus de 38 000 entrées, ce qui est un peu triste parce que c'est une comédie vraiment drôle, bien écrite. Je l'ai rattrapé le week-end juste après l'émission de la semaine dernière, donc j'ai pas pu vous en parler. Mais voilà, c'est un film sur une classe de lycée qui part en Italie pour faire un concours de latin. C'est une comédie qui joue beaucoup sur les ressorts comiques du langage, en fait, avec le latin et tout ça. Et c'est vraiment drôle, c'est vraiment pertinent dans ce que ça raconte par rapport au métier d'enseignant. On va d'ailleurs encore en parler ce soir. Et Louise Bourgoin est formidable comme toujours. Donc si jamais vous n'avez pas vu cette petite pépite de comédie française qui change de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et bah allez-y, c'est encore en salle et ça va pas rester longtemps à mon avis. Donc faut soutenir ce genre de proposition dans la comédie d'auteur. Voilà, c'était le petit point box-office. On passe maintenant à la seconde news qui concerne Dune. Et précisément Dune 3, puisqu'on parle de Denis Villeneuve, qui dit qu'il veut faire mieux que la deuxième partie. Voilà. Parce que du coup, pour rester sur Arrakis, on continue de parler de Dune, plus précisément de Dune 3, donc qui devrait logiquement s'appeler Dune Messiah, ou le Messie de Dune en français, puisqu'il devrait adapter le deuxième livre du cycle de Dune écrit par Frank Herbert. Après avoir adapté le premier livre de ce monument de la SF littéraire sous la forme d'un diptyque, que l'on dira globalement très réussi, pour ne pas dire grandiose. Denis Villeneuve a pour ambition de conclure l'histoire de Paul Atreides avec un troisième et dernier film pour aller au bout de sa vision de l'univers de Dune qui nous a plutôt bien servi jusqu'ici. Mais si le réalisateur de Blade Runner 2049 a réalisé les deux premières parties de sa trilogie à en devenir du coup plus ou moins d'affilée, il veut prendre son temps pour faire Dune Messiah. Un choix qui paraît assez logique étant donné que l'intrigue de ce deuxième livre se déroule 12 ans après la fin du premier livre et que Chalamet doit prendre un petit peu de barbe pour être crédible un petit peu en Paul Atreides plus vieux quand même, mais aussi parce que Villeneuve ne veut pas faire ne veut faire du Messiah que s'il peut faire mieux que le deuxième film et que s'il a une vraie raison de le faire. C'est en tout cas ce qu'il a dit dans le podcast Spoiler Special, excusez-moi l'anglais, du média Empire. Voilà, je vais vous citer ça littéralement ce qui est ces mots. J'ai fait les deux films d'affilée parce que ça faisait long. Absolument sens pour moi. J'ai senti que c'était la bonne chose de poursuivre juste après la sortie de la partie 1. Nous étions déjà en train de concevoir et d'écrire la partie 2, mais cela signifie aussi que je devais passer 6 ans non-stop sur Arrakis et je crois qu'il est sain de prendre un peu de recul. D'abord, s'assurer que nous avons un scénario fort, je veux éviter de ne pas avoir quelque chose de près. Je ne l'ai jamais fait et je pense que ça peut être dangereux à cause de l'excitation. Nous devons être sûrs de poser toutes les idées sur le papier. Si nous y retournons, cela doit être concret, cela doit faire sens. Si je fais Dune Messiah, c'est parce que ce sera encore meilleur que la partie 2. Sinon, je ne le fais pas. Il est quand même radical, Pépère. Oui. Hein. Hugo, on en pense quoi de la condition de notre Québécois, Denis ? Qu'est-ce qu'on en pense ?
Je pense qu'il a raison de se mettre cette rigueur à lui-même sur le travail... Pour Dune 3, après, oui, il a raison de prendre son temps aussi, hein, de ne pas se précipiter et faire du copier-coller. On en a vu pas mal, hein, des suites qui ont voulu...
Des troisièmes volets de trilogie
tardifs. Des troisièmes volets un peu, ouais.
Et ratés, parfois, ou moins satisfaisants. C'est pas rare en plus qu'une trilogie, ça soit le troisième qui soit moins bon.
Oui.
C'est très rare un troisième film de trilogie qui soit le meilleur. Bon, là, évidemment, quand je dis ça, je pense à une trilogie, forcément, le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi... Ah, t'es pas d'accord. Vas-y, dis-moi, c'est quel ton préféré des trois ?
Le Retour du Roi, il est bien, mais moi, j'ai quand même bien aimé les deux tours. Hein.
Ah, toi, t'es la team les deux tours.
Ouais.
Voilà, mais il y a une team les deux tours et une team le Retour du Roi pour dire que c'est le meilleur. Hein. Enfin, ça dépend.
Oui,
ça dépend entre les deux et les trois à chaque fois.
Les goûts et les couleurs. Hein,
mais... C'est ça, oui, bien sûr, évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire, dans le sens, l'aboutissement, l'apothéose du troisième film, elle est quand même assez rare, tu vois. Je veux dire, c'est rare qu'un...
C'est rare, oui.
Tu prends la trilogie Dark Knight de Nolan, The Dark Knight Rises, je trouve bien, mais...
Il est moins bien que les deux premiers.
Il est vraiment moins bien, voilà, tu vois ce que je veux dire.
Matrix, Revolutions, même pire, c'est d'en faire un quatrième.
Moi, j'aime bien le quatrième après, mais bon, je comprends qu'il y en a qui n'aient pas aimé le quatrième, mais moi, je trouve que Resurrection est peut-être le meilleur depuis le premier, tu vois. Donc, j'aime beaucoup Resurrection, donc c'est pour ça. Mais Reloaded et Revolution, je trouve que c'est des suites. J'aime bien Reloaded pour ses scènes d'action. Elles sont quand même folles. Elles sont toujours inégalées aujourd'hui, mais Revolutions, je trouve que ça a l'épilogue qui l'affrontement final qui tire en longueur constamment avec les machines et tout. Enfin, je trouve que c'est... Même s'il y a des beaux mécas dedans, il y a des trucs quand même très cool et tout. Mais voilà. Mais on s'écarte du sujet.
Oui.
Pardon, faut pas le lancer. Mais du coup, voilà, je continue du coup ma comparaison entre Dune et Seigneur des Anneaux. Hein. Voilà, pour moi, c'est la meilleure trilogie qu'on a vue. Enfin, je pense que c'est l'une des plus belles promesses de trilogie qu'on a vues depuis le Seigneur des Anneaux, je pense, voilà, véritablement. Et j'attends que Villeneuve fasse son retour du roi un petit peu, moi, c'est ce que j'attends. Mais j'espère qu'il va le faire, son retour du roi, quand même, parce que s'il ne le fait pas, moi, je vais être un peu triste. Voilà. Mais entre-temps, il avait quand même parlé de faire son Cléopâtre avec Zendaya, apparemment. Il y a aussi un roman d'Arthur Settler qui veut adapter. Enfin, voilà, je pense qu'il a raison de prendre du recul. Pour le coup, il a raison de prendre du recul. Mais je veux qu'il revienne sur Arrakis. Il faut qu'il revienne sur Arrakis, Denis, notre Québécois préféré. Je vais éviter de faire des accents québécois. Sinon, je vais me faire insulter par des Québécois. Alors, maintenant, on va passer à une news, un peu la triste nouvelle de la semaine, quand même. Voilà, Daniel Beretta, la voix française dans La Chose des Gars, est décédé le 23 mars 2024 à Ajaccio, à l'âge de 77 ans. Il était aussi connu en tant que chanteur et compositeur, puisqu'il a joué dans l'opéra rock Jésus-Christ Superstar. Il était également connu dans le doublage du cinéma d'animation, puisqu'il est la voix de Lumière dans La Belle et la Bête, celle du maire dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, ou encore Batou dans Ghost in the Shell. Il s'agit du troisième comédien de doublage qui nous quitte après Patrick Poivet, qui était connu pour la VF de Bruce Willis, et Jacques France, connu quant à lui pour être la voix de Meg Gibson, ou encore John Goodman. Et il y a aussi du coup Alain Dorval qui nous a quitté récemment, le 13 février 2024, à 77 ans aussi, donc juste avant Daniel Beretta. Voilà, les deux partent, littéralement se suivent. C'est quand même assez, assez triste quand même, je trouve. Ouais. Comme si, je crois qu'ils étaient copains en plus quand même. Donc voilà.
Il y a une espèce de symbolique un peu, j'ai l'impression.
Bah ouais, c'est ça. Tu te dis en fait, toutes ces voix iconiques, toutes ces VF iconiques sont en train tous de partir. Est-ce que c'est la mort d'une époque, du doublage, tu vois, de... Enfin voilà. Même si le doublage, moi, je continue à le soutenir en France, même si je suis un peu team VO, tu vois, mais je continue quand même à trouver qu'on est un des pays qui assure le mieux en termes de doublage. On a des vrais comédiens de doublage. C'est toujours bon de rappeler que ce ne sont pas des doubleurs, mais des comédiens de doublage. Ce sont des comédiens. Voilà, je pense aussi à Donald Renew, évidemment, pour la génération actuelle. Enfin, ce sont qui est la voix de Spider-Man pour beaucoup de gens, en fait. Enfin, voilà, ce sont des comédiens qui ont eu leur importance culturellement parlant dans la culture française et dans le monde des VF, on va dire. Et je trouve ça terrible, voilà. Mais du coup, en hommage à Daniel Beretta, voici un petit récap de ses punchlines les plus cultes dans un de ses films les plus aimés, je pense, véritablement. Il s'agit de sa performance en Mr. Freeze dans Batman et Robin. Voilà.
Qui débarque. Ne compte pas me mettre au frais.
Il nous cherche des crosses, vieux frère.
Qu'est-ce qui a tué les dinosaures? L'air glaciaire. Freeze, dégivré. Prends pas froid.
Et maintenant, on appelle un taxi?
Ne prends pas les pieds dans le tapis.
Ça va surfer.
Reste cool, Robin des Bois. Tu sais garder ton sang-froid, Batman? Je te refroidirai la prochaine fois.
C'est vraiment la jungle ici. Oh, je suis en chaleur. Disons que mes cheveux sont cassants et que ma peau est toute sèche. Ça n'a rien de blizzard jeté dans la peau. Partages-tu cette flamme qui me consume?
Permets-moi de rester de glace.
C'est ce qui s'appelle refroidir les ardeurs. J'ai envie de couper le blé en herbe avec vous. Ma pelouse est dans tous ses états. L'un de vous, petit vénard, est sur le point de butiner le miel.
Je crois que j'ai jeté un froid. Restez de glace. En voilà une belle plante. Laisse-moi chercher. Botanica. Eco Lady. Donne-moi ce diamant au Garden Girl. Ou je te refroidis les branches. Cool cette boîte. Tu es à court d'antigel. Laissez-moi briser la glace. Mon nom est Freeze. Retenez-le bien. Parce que je glace le sang et refroidis les humains. Un garçon livreur qui délivre aussi. Waouh!
Oh, je te les empoignerai avec joie, tes diamants!
Les monstres, j'en ferai des statues de glace! Je transformerai leur sang en banquise! Adam. Et crève! La vengeance est censée être un plat qui se mange froid. Au menu ce soir, glace! Ouais, je vais leur coller un pain de glace!
Aucun signe du bonhomme de neige!
Il a peut-être fondu!
Non, il doit hiberner.
Prévision météo, ça va geler.
Hé, hey, Freeze. Alors, ça chauffe? Tu perds ton sang-froid, Freeze.
Je suis toujours cool. Gèle en enfer, Batman! Prépare-toi à goûter au raisin de ma colère.
Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment du trésor national, je pense. Vraiment, tu vois. Non, mais alors, premier degré, je sais que c'est pas un des meilleurs rôles, du coup, de Schwarzenegger, et que, voilà, et on aurait pu passer, en effet, des punchlines de Predator,
Terminator 2,
ça et tout. Mais je me suis dit, bon, voilà, quand je vois à quel point il était tellement investi, même dans des punchlines aussi, aussi nuls que dans Batman et Robin, je me suis dit, bon, allez, ça peut être marrant quand même. Et au moins, on termine cette triste news sur une note un peu positive. Et on se souvient d'à quel point Daniel Beretta avait une voix inoubliable, même dans les pires, dans les pires rôles et les pires punchlines. C'est ça qui me fait rire. Donc voilà, c'était les actus de la semaine. Place maintenant aux sorties, après avoir bien rigolé, du coup.
I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin.
Campus, 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 campus.
Et on commence tout de suite avec un petit rattrapage de la semaine dernière, la jeune fille et les paysans.
Jagna Dominikowa, taka wystrojona, taką to by można za bogatego wdowca wydać.
Nie tam dobrze, gdzie jestem.
Na ciebie kupiła.
Nie mogę.
Weź, Janusz.
Nie jest on pierwszy gospodarz we wsi?
Nie do biedowania cię Pan Bóg stworzył, je?
Ze starym pójdziesz?
Mam co innego do gadania?
Takiego męża dostaniesz, taką i gospodarkę. I taką se panią będziesz.
Jakby tak można się było tych chmur uwiesić i we świat za nimi polecieć.
Poleciałbym z tobą.
Après La Passion Van Gogh, le duo de réalisatrices et réalisateurs Deka Welkman et Hugh Welkman reviennent avec un nouveau film d'animation révolutionnaire dans son procédé en adaptant le roman de Vladislav Reymont, La jeune fille et les paysans. Dans le titre éponyme du roman, du coup, c'est plutôt Les paysans, tout court. Mais voilà, c'est une œuvre littéraire matricielle parmi les récits traditionnels de la Pologne, à l'image de ce que représentent les contes de Charles Dickens en Angleterre ou Émile Zola en France. Cette adaptation est donc née de l'envie de ces réalisateurs de faire découvrir cette œuvre peu connue en dehors de la Pologne, afin d'initier les spectateurs européens à cette histoire de la culture polonaise en lui donnant vie comme un tableau animé, de la même manière que La Passion Van Gogh donnait vie au tableau du peintre, enfin du célèbre peintre. La jeune fille et les paysans représentent par ailleurs un pari encore plus grand pour le duo, puisqu'il est question ici de mettre en image la Pologne d'avant la révolution industrielle en s'inspirant de peintures de peintres polonais de la fin du 19e et du début du 20e siècle pour les combiner aux techniques cinématographiques d'animation du 21e siècle. Il y a donc presque deux films en un, puisqu'après un premier tournage en prise de vue réelle avec des acteurs, plus de 150 dessinateurs ont repeint les prises de vue du film à la peinture à l'huile pour donner cette animation si particulière qui donne le sentiment de voir un tableau vivant s'animer sous nos yeux. Le roman de Raymond, faisant plus de 1000 pages et étant un véritable drame paysan avec des combats, de la danse, de la violence, de la sexualité crue, La jeune fille et les paysans est donc un défi d'autant plus passionnant et exigeant pour ces cinéastes et animateurs pour un nouveau film d'animation purement pour adultes. C'est encore une fois de l'animation pour adultes. Nous sommes au 19e siècle dans un village polonais en ébullition où la jeune Jagna, ça se dit Jagna, incarnée par Kamila Hrzdalowska à l'écran en prise de vue réelle et doublée par l'actrice césarisée française Nadia Tereskiewicz en VF, que l'on a pu voir notamment dans Les Amandiers. Voilà, c'est l'histoire de la jeune Jagna du coup, qui se révolte lorsqu'elle est promise à un riche propriétaire terrien, alors qu'elle est amoureuse du fils de ce dernier. Sacré problème quand même. Elle décide alors de prendre son destin en main, rejette les traditions et bouleverse l'ordre établi notamment par l'Église, parce qu'à cette époque-là, on ne jure que par la religion et l'Église, évidemment, et commence alors les saisons de la colère, car La jeune fille et les paysans est rythmée dans son récit par les quatre saisons, illustrées par les transitions de montage absolument sublimes, rendues possibles par l'animation qui transcende la prise de vue réelle en ajoutant toute la poésie et toute la virtuosité technique d'un objet de cinéma qui est formellement... super, vraiment sublime. Si la peinture animée peut déstabiliser dans les premières minutes, avec un effet un petit peu waouh assez évident, et des mouvements de caméra pour montrer un peu la virtuosité du procédé technique, on a souvent des plans séquences, des travelling, enfin voilà, des choses qui ne sont permises que par l'animation et qui viennent du coup presque rajouter quelque chose aux prises de vue réelles. On s'habitue assez rapidement à ce style visuel et on oublie très vite qu'il s'agit d'animation au-dessus des prises de vue. Tant les traits des acteurs et actrices sont parfaitement retranscrits à l'écran dans leur jeu malgré la couche de peinture qui est remise par-dessus. Au-delà de son animation du coup sublime et fluide, La jeune fille et les paysans évoque évidemment des thématiques qui sont assez intemporelles à travers cette histoire d'émancipation féminine qui passe par un véritable chemin de croix pour Jagna, hein, d'abord idéalisée puis ensuite pointée du doigt pour avoir voulu assumer ses désirs et ses rêves avant d'être conspuée et d'arriver à une conclusion à laquelle on s'attend car le récit est un peu de nature traditionnelle et classique, donc ça reste assez prévisible, on devine la fin assez facilement quand même, mais le conte de Raymond est sublimé par une virtuosité technique assez ahurissante qui donne à voir pas seulement un film d'animation mais une œuvre cinématographique assez inédite qui ne ressemble à nul autre dans le paysage actuel et qui résonne d'autant plus avec l'actualité à travers son récit initiatique féministe assez intemporel. Voilà. C'est toujours en salle, on voulait vous en parler parce que c'est sorti la semaine dernière et c'est parti des films que je n'ai pu voir qu'après l'émission de la semaine dernière. Mais voilà, je voulais absolument en parler parce que je trouve que c'est un film formidable. C'est sûrement un des meilleurs films d'animation que vous verrez cette année. Si tant est qu'on s'arrête à dire que c'est de l'animation, en fait, puisque c'est à la fois de la prise de vue réelle et de l'animation, donc... pour moi, c'est vraiment plus qu'un film d'animation, c'est vraiment une œuvre hybride Voilà, si vous avez vu La Passion Van Gogh, vous allez être, je pense, encore plus impressionné véritablement, parce que c'est, je trouve que c'est un vrai aboutissement pour leur deuxième film avec cette technique. Voilà. Donc c'est toujours en salle actuellement au Pathé, je crois, et ça va peut-être passer au Saint-Leu et Orson Welles d'ici là aussi quand même, parce que c'est quand même du cinéma d'auteur. Voilà, et puis il y a, comme vous avez entendu un petit peu dans mon annonce, il y a des chants folkloriques, il y a de la musique qui est assez géniale, enfin il y a de la danse et tout, c'est très vivant comme cinéma et techniquement virtuose. Donc allez-y, foncez.
Ludzie we wsi teraz wydziwiają na
ciebie. A niech szczekają.
To powiadają o niej, że łasa na chłopaku.
Miłość przechodzi i odchodzi, a ziemia zostaje.
Et on continue avec cette fois du coup les sorties de cette semaine et on commence avec La Promesse Verte.
Listen carefully. What do you hear?
I don't hear anything.
Because there is nothing to hear. No more birds, no more insects, no more orangutans. All gone.
Je les accuse de massacrer la planète. De tuer des villageois.
Hey yo, t'en permets.
Et de laisser en prison un innocent. Pour le réduire au silence.
Mon fils est condamné à mort et je peux compter sur personne.
Non, s'il vous plaît, non.
Saïd Ayouch, attaché dans ma salle.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont attaqué un village. Ils m'ont piégé, voilà. Tout ça, c'est à cause de leur putain d'huile de palme.
Là, on en met partout. Tout le monde en croque, y compris dans les hautes sphères. Alors l'huile de palme, on n'y touche pas.
Ce matin, la cour d'appel de Jakarta vient de confirmer la condamnation à mort de Martin Landreau.
Nouveau film de Édouard Bergeon après le drame paysan Au nom de la terre avec Guillaume Canet, La Promesse Verte est l'occasion pour le réalisateur de s'essayer au thriller écolo. Ouvertement calqué sur le modèle américain du film dossier à la Spotlight ou Dark Waters, ce n'est pas la première fois que le cinéma français s'inspire du genre pour tirer des fictions inspirées de faits réels et écologiques alarmants, notamment récemment avec Goliath. C'est lors du tournage d'Au nom de la terre, qui traitait déjà des conditions de vie et de travail déplorables des agriculteurs en détresse, que le réalisateur est tombé sur un article de presse concernant le blocage de la raffinerie Total de la Med par des agriculteurs afin de protester contre l'importation d'huile de palme d'Asie du Sud-Est destinée à la production de biocarburants. Il y a aussi de Nutella et de Kinder Bueno que vous mangez tous. De ce scandale écologique, je dis ça mais moi aussi j'en mange, hein, donc bon... On est tous dans le même panier. De ce scandale écologique, Édouard Bergeon en tire un thriller plutôt efficace, racontant l'histoire de Carole, incarnée par une excellente Alexandra Lamy, qui n'a pas voulu être maquillée pour être au plus près de la vérité en incarnant une mère enseignante, dont le fils Martin, incarné par Félix Moati, étudiant en thèse parti en Indonésie pour enquêter sur la déforestation liée à l'exportation de l'huile de palme, est arrêté et injustement condamné à mort pour avoir mis son nez là où il ne fallait pas. Carole va alors se lancer dans un combat inégal contre les exploitants d'huile de palme responsables de la déforestation et contre les puissants lobbies industriels. S'il arrive à tirer son efficacité dans le rythme et le montage de ses pairs américains, justement, La Promesse Verte fait parfois tout de même office de thriller un peu poussif du dimanche soir sur TF1, avec un cruel manque de cinéma dans sa mise en scène, des dialogues pas toujours très finaux dans l'écriture et des acteurs pas toujours à l'aise dans les seconds rôles par rapport au ton du genre du film de dossier, justement, qui est très codifié. Mais Édouard Bergeon est investi dans son sujet écologique et d'autant plus actuel et alarmant, de la même manière que Au nom de la terre alerté sur la réelle détresse d'un monde agricole qui se meurt, porté à l'époque par la performance d'un Guillaume Canet qui était très convaincant, même s'il courait clairement encore après un César, hein, on va pas se mentir. Dans La Promesse Verte, c'est Alexandra Lamy, qui porte sur les épaules le combat politique du film et son message d'urgence nécessaire et d'utilité publique, à défaut de compenser pleinement un manque de cinéma assez flagrant en se frottant à un genre aussi codifié dans son modèle américain. Mais La Promesse Verte reste un honnête thriller écolo du dimanche, dirons-nous, dont on conseillera plus d'attendre la diffusion à la télévision tout de même, sauf peut-être pour aller voir un bon film dossier avec mamie durant un dimanche de Pâques pluvieux, si vous voulez. Voilà. Mais c'est actuellement en salle, et vous pouvez aller vous faire votre propre avis si vous le souhaitez. Voilà. conseil.
Moi, ce que je veux, c'est récupérer mon fils.
Ma mère a raison. Quand on veut changer le monde ne se laisse pas faire.
Votre fils se trouve au cœur d'un jeu économique et politique qui dépasse complètement son cap.
Apart from your mother, no one will believe you.
We continue to destroy the forest, even though we know the consequences.
Bartholomew va se battre. On va aller jusqu'au bout.
Et on continue toujours sur les sorties de la semaine avec un film qui était présenté en compétition au Festival de Cannes 2023. Il s'agit de Le jeu de la reine.
Nous sommes fiers de vous. Vous avez été une excellente régente.
La reine !
J'aurais aimé faire davantage.
J'en suis certain. Faites bien attention de toujours garder une certaine retenue.
La révolution est en marche !
Vos affinités avec les radicaux pourraient menacer la stabilité du royaume.
J'ai la conscience. Tranquille. J'ai l'intime conviction que j'ai été choisie par Dieu pour l'amener à penser autrement.
Belle intelligence.
Mon père est-il souvent en colère contre vous ?
Êtes-vous une menteuse ?
Je ne sais jamais ce qu'il va faire. Je ne sais jamais ce qu'il a en tête. Il ne vous brisera jamais.
Il nous arrive de penser que vous nous connaissez mieux que nous nous connaissons en vérité.
Le jeu de la reine est l'adaptation du roman éponyme d'Elizabeth Frémont, publié en 2012, dont la genèse date d'avant la parution, puisque la productrice Gabrielle Tana avait lu les épreuves et avait posé une option pour le porter à l'écran. Mais ne voulant pas d'un énième film d'époque anglais, elle s'est tournée vers le cinéaste brésilien-algérien Karim Aynouz pour en faire un objet plus punk, plus proche du thriller politique et de l'horreur psychologique, dans une vision plus viscérale sur l'histoire des Tudors anglais, déjà portée sur le petit écran avec la série The Tudors. Mais ici, pas de Jonathan Rhys-Meyers sexy et de l'amour pour faire mieux passer la figure du bourreau horrible qu'était Henry VIII, mais plutôt Jude Law qui se dédlamourise pour incarner un ogre dont le corps pourrit au point que l'acteur a demandé à faire diffuser sur le plateau des odeurs désagréables afin que chaque acteur ressente la saleté et le pourrissement de son corps pour être mieux impliqué dans le jeu. Je trouve que là, on est vraiment sur de l'acteur studio pur comme on aime. Là, c'est de l'acteur studio. Là, vraiment. Comme si les gros plans sur sa jambe purulente ne suffisaient pas. Il y a quand même des gros plans assez dégueulasses sur sa jambe. Comme son nom l'indique, le jeu de la reine s'intéresse à une figure du coup féminine un peu oubliée dans l'histoire et peu représentée dans les adaptations, pour ne pas dire quasi pas du tout sur grand écran. À savoir Catherine Parr, incarnée du coup ici par une géniale Alicia Vikander, que l'on retrouve dans un rôle de personnage féminin fort comme on ne l'avait pas vu, je pense, depuis Ex Machina d'Alex Garland, dont ça fait quand même quelques années, parce qu'on ne peut pas dire non plus que dans Tomb Raider, elle est très. Ok, elle est badass, mais bon, c'est pas son plus grand rôle. Donc il s'agit du coup de la sixième et dernière épouse du tyran Henri VIII, considérée un peu comme la survivante, hein, puisque deux de ses précédentes femmes, Anne Boleyn et Catherine Howard, ont été toutes deux décapitées sur son ordre, tandis que sa première femme, Catherine d'Aragon, fut répudiée, l'Élisabeth, hein, puisque c'est le moment où il a décidé carrément d'annuler le mariage et de ce qui ne se faisait pas encore à l'époque. Hein, donc au passage, il s'est aussi mis à dos l'Élise. Jeanne Seymour mourut d'une maladie, c'est la seule femme qu'il considère avoir vraiment aimé, en fait, et Anne de Clèves vit son mariage du coup annulé. Voilà, tout simplement. Et dans Le jeu de la reine, Karim Aynouz adapte une lecture du coup féministe de cette histoire qui tord un peu les faits réels pour nous raconter la chute d'un tyran organisé par un complot de femmes, en fait, mené par Catherine Parr, qui aurait renversé le roi pour initier le règne d'une de ses filles, Elisabeth, émancipée de celui de ses hommes, justement. Le premier règne sans hommes. S'il se veut un peu comme un film d'époque postmoderne qui se rapproche plus d'un thriller psychologique sur une femme qui s'émancipe et se libère de son tortionnaire, Le jeu de la reine défend parfois un peu trop la réalité pour faire entrer à chausse-pied son propos féministe et punk. Jude Law amuse en Henri VIII purulent et ignoble, hein, tantôt dans l'exagération de la bouffonnerie au point de nous perdre peut-être un petit peu parfois. Ça montre un peu aussi le revirement un peu étrange de sa carrière récemment, notamment avec... il a incarné Capitaine Crochet dans le Peter Pan et Wendy de Disney, là, qui est David Lowery, qui est sorti sur Disney+, où c'était vraiment un crochet un peu bouffon aussi, enfin voilà, qui était un peu grandiloquent. Il fait un peu de la grandiloquence récemment, je trouve. Et là, il nous perd un petit peu dans la bouffonnerie, même si ça amuse quand même. Mais aussi, il peut être tantôt vraiment glaçant lorsqu'il nous rappelle en un regard qu'il pourrait faire exécuter Alicia Vikander sur le champ, juste en claquant les doigts, comme ça, quoi. Donc il est quand même très, très impressionnant, je trouve. Le film est clairement porté, du coup, par l'alchimie que dégage son duo de comédiens assez brillant, mis en scène comme un véritable face-à-face assez tendu, tandis que Carrie Maynouz a le mérite de prendre parfois à bras le corps le film d'époque anglais pour y mettre une dimension viscérale assez inédite et un naturalisme frontal et un peu pris sur le vif, caméra à l'épaule dans la mise en scène. C'est osé. C'est parfois aussi très bancal, aussi dans son écriture et son propos un poil maladroit, notamment sur la religion. Le film nous dit un peu plus ou moins que ce sont les femmes qui ont remis un peu leur croyance et leur religion sur le devant du règne un peu catholique anglais. Enfin, voilà, je trouve que du point de vue de la religion, c'est peut-être parfois un petit peu maladroit quand même dans ce que ça raconte. Mais le jeu de la reine ne démérite pas en sa proposition de thriller politique presque horrifique par moment, qui n'est pas sans rappeler l'adaptation de Macbeth par Justin Kurzel avec Marion Cotillard et Michael Fassbender, qui était très esthétique. Et comme ce dernier, le jeu de la reine peut surtout compter sur ses excellents interprètes et sa photo et son ambiance de film d'époque glauque, on va dire, mais soignée. À défaut de pleinement toujours convaincre dans sa relecture historique, pas toujours finaude dans son, on va dire, power woman, en quelque sorte. Mais c'est en salle, et ça mérite quand même toute votre attention. Voilà, parce que c'est quand même une proposition d'auteur avec des partis pris radicaux.
Vous ne voulez pas me faire souffrir ?
Jamais.
Il veut la preuve qu'elle l'a trahi d'une manière ou d'une autre. Vous êtes un esprit vif. Cela vous a mené trop loin. Cela devient extrêmement dangereux. Plus de mensonges quittent.
À quoi peut-il me servir d'être reine si je n'ai pas le courage de mes convictions ?
Et on continue du coup avec un autre film événement de la semaine qui a fait pas mal parler de lui pour son sujet polémique. Il s'agit de Pas de vagues.
On a parlé de séduction qui passe par la flatterie.
Par exemple, avec cette nouvelle coiffure, Leslie est particulièrement en beauté aujourd'hui.
Qu'est-ce que je suis en train de faire ?
Le profit peut gérer Leslie ! Le profit peut gérer Leslie ! Le profit peut gérer !
Tu pourrais passer me voir ?
Un problème ?
Non, rien de grave, mais passe me voir après.
Tu harcèlement ?
Il a dit qu'elle était fraîche.
Mais oui, Leslie, enfin, je parlais de l'eau.
Sauf qu'il l'a dit en me regardant dans les yeux.
Les élèves entrent et sortent de la classe, entrent et sortent du collège, on n'a jamais le temps de leur parler. C'est pour ça que j'ai pris le risque de sortir du cadre.
Et vous pensez que c'est à vous seul de le régler, ce problème ?
Troisième film de son réalisateur Teddy Lucie Modeste, ancien enseignant qui s'est inspiré de son propre vécu et aidé à l'écriture par la cinéaste Audrey Diwan qui avait réalisé le film L'Événement. Pas de vague raconte la descente aux enfers d'un professeur de français dans un collège de banlieue incarné par un excellent François Civil qui se retrouve dans un terrible engrenage lorsqu'il est accusé d'harcèlement par une élève suite à une maladresse en cours. Le thriller scolaire est à la mode en ce moment et d'autant plus d'actualité avec son sujet polémique, mais contrairement au film allemand La salle des profs dont nous avions parlé récemment dans une autre émission, Pas de vague use parfois de grosses ficelles d'écriture quand même pour nous raconter cet effet engrenage boule de neige qui part d'un petit rien du tout pour devenir quelque chose de beaucoup plus grave. Notamment aussi dans les caricatures d'un peu de personnages, je pense que vous l'avez entendu en annonce, l'espèce de stéréotype un petit peu du frère de l'élève justement qui dit voilà, en gros, j'ai pas caricaturé le micro, mais oui, je le tue, machin et tout. Voilà, bref, c'est très chausse-pied encore une fois comme écriture de personnage, je trouve. On est vraiment sur un gros stéréotype, mais qui existe néanmoins quand même, donc on va pas non plus dire que c'est complètement faux et c'est inspiré d'un vécu, donc voilà, respecter ça, mais voilà, le scénario fait vraiment appel parfois à notre suspension d'incrédulité pour accepter certaines situations qui, dans la vraie vie, seraient désamorcées juste avec une discussion. Notamment, il y a des choix parfois de personnages, des choix qui sont faits par les personnages qui vraiment nous demandent parfois une vraie suspension d'incrédulité, mais en même temps, on peut partir aussi de l'idée que sans ces choix-là, il n'y aurait en quelque sorte pas de film et pas de ressort scénaristique. Donc du coup, encore une fois, la suspension d'incrédulité existe aussi pour ça au cinéma, bien sûr, mais voilà, la chute de ce prof n'en reste pas moins éprouvante, notamment grâce à la performance de François Civil, mais aussi à une mise en scène qui parvient parfois à nous mettre dans une position d'inconfort, à travers notamment des chants contre chants qui brisent le quatrième mur pour nous mettre à la place du personnage, jugé par les autres alors qu'il n'a rien fait, si ce n'est vouloir aider ses élèves et faire plus que les autres profs. C'est en tout cas ce que le film essaie de nous dire. Voilà, parce qu'un peu à la manière de Comme un fils, récemment aussi, de Nicolas Boukhireff, Pas de vague envoie un missile sur l'académie, sur le rectorat, qui abandonne ses enseignants sur le terrain sans les défendre pour justement ne pas faire de vagues. Voilà, c'est un peu une sorte de dénonciation d'un système scolaire un peu défaillant dans le traitement de ses enseignants. feignant, on va dire. C'est pas toujours très fin dans l'écriture, c'est parfois vraiment maladroit, mais François Civil est en revanche vraiment très bon comme toujours, et la mise en scène par moment arrive à prendre des parties prises en scène qui nous mettent dans une position d'inconfort, qui nous sort vraiment de notre zone de confort, et du coup par moment c'est vraiment bien tendu quand même. C'est un film, moi personnellement, j'ai quand même, il dure une heure et demie montre en main, mais j'ai passé tout le film un peu avec la boule au ventre en me demandant si ce prof allait survivre ou pas, parce que vraiment il y a un côté vraiment descente aux enfers qui est assez prégnant, mais c'est pas non plus, il n'y a pas autant de cinéma que dans un film comme La Salle des Profs, qui arrivait à être vraiment un vrai thriller scolaire en huis clos, où on sortait jamais de l'école, donc ça donnait l'impression que tout ça était sans fin, alors que là on a quand même plein de scènes où le personnage de François Civil est chez lui avec son copain, parce que du coup le personnage est aussi, c'est dit dans un bon sens en soi, mais le personnage est aussi homosexuel, et il y a tout un truc par rapport à ça, au fait que il pourrait très bien désamorcer le truc en parlant de sa vie privée, en disant qu'il est homosexuel, mais en même temps il veut pas être persécuté pour ça. Il y a plein de ressorts scénaristiques qui sont parfois un peu usés, un peu gros quand même, mais qui amènent des thématiques pas inintéressantes sur le papier. Voilà, c'est parfois vraiment pas toujours bien fait, je dirais, mais ça a le mérite quand même d'être un peu un brûlot sur le milieu scolaire qui est quand même sacrément enflammé et actuel parfois. Ça résonne avec l'actualité, avec certains profs qui ont pu être quand même assassinés ou agressés. Enfin, ce sont des choses qui font écho avec l'actualité. Donc, c'est un film qui est vraiment actuel, donc rien que pour ça, s'il y a un film à aller voir sur le milieu scolaire qui est plutôt bien joué, pas trop mal mis en scène et pas trop mal écrit, et Pas de vague fait plutôt bien le café, mais pour le coup le film ne monte pas dans les tours, c'est le cas de le dire pour le coup, voilà, si on fait une petite blague avec une pluie de la bande-annonce, voilà. Mais en tout cas c'est actuellement en salle, si vous voulez vous faire votre propre avis, donc allez-y.
Il se comporte mal avec ma sœur, vous trouvez ça normal?
Écoutez, son frère m'a explicitement menacé de mort.
Mais qui va te protéger? Ton directeur? Ton école là, le rectorat qui répond même pas au téléphone?
Il y a des parents d'élèves qui veulent interpeller la presse.
Si tu mens, Leslie.
Enfin, nous, on prend des risques en te faisant confiance.
Je te tue.
Vous arrêtez les téléphones!
Là, ça va trop loin.
Et si c'est le prof qui ment, je le tue aussi.
Monsieur Keller, pas de vague. On va pas prendre le risque que ça monte dans les tours.
Parce qu'on n'est pas déjà dans les tours, là?
Et enfin, avant de terminer, du coup, quelques recours en bref parmi les autres sorties de la semaine. Il y a évidemment Kung Fu Panda 4, voilà, qui sort. Je vais faire une confession à ce micro, une confession terrible, mais je n'ai pas vu la trilogie Kung Fu Panda. Voilà. Même pas le premier. Si, peut-être il y a des années, mais c'est vraiment il y a longtemps, et je m'en souviens plus trop. Mais j'irai voir le 4 quand même. Voilà, je vais quand même aller me faire mon avis sur le film, et ça me donnera peut-être envie de rattraper le reste de la trilogie, du coup. Mais voilà, je n'ai pas vu Kung Fu Panda 4, donc je ne vous en ai pas parlé aujourd'hui, mais je pensais que c'était plus intéressant de parler d'autres sorties que Kung Fu Panda 4, parce que Kung Fu Panda 4 n'a pas vraiment besoin de moi pour faire les entrées, je pense. Toutes les familles vont aller ce week-end, c'est le week-end de Pâques en plus. Voilà, c'est bon. Alienoid, qui est un film de SF coréen, je crois, si je ne m'abuse, qui sort en séance spéciale, un peu comme le Godzilla Minus One et tout ça. Donc c'est dimanche et lundi. Moi, j'y vais lundi en VO sous-titré, pour le coup. Donc peut-être que je vous en parlerai la semaine prochaine, si jamais j'ai vraiment des choses à dire dessus. Et enfin, aujourd'hui, sur Prime Video, il y a le nouveau film de George Clooney, Ils étaient un seul homme. Voilà, qui je crois est un drame sportif, si je ne m'abuse. Voilà, George Clooney, généralement sa filmographie en tant que réalisateur, on va dire que c'est à boire et à manger, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir des trucs très sympas comme alors il me semble que c'est Goodbye and Good Luck, qui était un de ses premiers films, où c'était dans un très beau noir et blanc, il parlait d'une émission de télévision américaine dans les années 50, je crois. Je veux pas trop dire de bêtises non plus, mais c'était plutôt réussi. C'était un exercice de style plutôt joli. Après, il y a eu aussi des trucs beaucoup moins bien, comme Bienvenue à Suburbicon, qui était un espèce de thriller un peu comédie noire, un peu à la Frère Cohen, qui était écrit par les Frères Cohen, justement. Mais c'était George Clooney qui essayait de faire du Frère Cohen, et c'était pas toujours très réussi. Il avait fait Minuit dans l'univers, qui est sorti sur Netflix, qui était pour le coup un assez mauvais post-apo. Voilà, donc Monument Men aussi, où il y avait Jean Dujardin dedans. Enfin voilà, voilà, George Clooney, sa filmographie en tant que réel, c'est vraiment quitte ou double, on va dire. Hein, voilà, donc voilà, si vous voulez voir le nouveau film de George Clooney qui est sorti sur Prime Video, il avait déjà fait un film Prime Video, c'était Tender Bar, je crois, un truc comme ça, qui était avec Ben Affleck, il me semble, sorti il y a peut-être un ou deux ans sur Prime Video aussi, en catimini, personne n'en a vraiment beaucoup parlé. Je pense que ça va être un peu pareil pour celui-là, il sort un peu comme ça sur Prime, je crois que pas grand monde a entendu parler beaucoup. Donc, si vous voulez vous faire votre propre avis sur George Clooney et voir s'il s'est amélioré en tant que réalisateur, bah, allez-y, allez voir sur Prime Video, ils étaient un seul homme. Voilà, globalement, c'est toutes les seules recos que j'avais à vous faire cette semaine, il n'y a pas grand-chose non plus. Et voilà, Parlons Ciné, c'est fini pour ce soir. Je remercie Hugo de m'avoir accompagné encore une fois ce soir à la technique. Merci Hugo.
Merci à toi Gaël.
Merci à toi. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir à nouveau sur Radio Campus, là où nous parlons ciné. Salut à tous et à la semaine prochaine. Ciao.